Vous écoutez
RMC.
Il est minuit 22, la nuit de l'after continue avec dans un peu plus d'une heure et demie maintenant le deuxième match de la nuit. Mexique-Angleterre, on en parlera tout à l'heure. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz également. On va reparler du Brésil dans quelques instants, mais là, concentrons-nous un peu sur la Norvège, les gars. On a Clément avec nous qui est en Norvège. Salut Clément.
Bonsoir messieurs.
Salut Clément.
Alors Clément, salut, je Clément. Reçois un message là sur le numéro WhatsApp de l'after, Laurent, qui me dit « La Norvège, c'est la nouvelle Croatie. Deux défaites seulement sur les 21 derniers matchs, dont une avec l'équipe B face à la France. » C'est vrai que c'est une stat assez étonnante. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, nous dit Laurent. Est-ce que toi, tu es surpris, Clément ?
Non, je suis pas surpris. Je m'excuse d'abord. Je vous appelle avec beaucoup d'émotion. C'est très beau ce qui arrive en Norvège en ce moment. Donc, je vous appelle avec beaucoup d'émotion. Donc, je m'excuse si.
Si
mes propos peuvent être un peu incohérents. Mais non, je suis pas surpris. C'est la Norvège est un pays qui œuvre pour le football depuis des années, qui a bien travaillé, qui, on le voit avec ce qu'a fait Bodø/Glimt, avec ce qu'a fait Brann en Coupe d'Europe. C'est un pays qui a beaucoup œuvré pour le sport en général, pas seulement pour le football. Et c'est bien de voir que ça paye. C'est bien de voir que ça paye. Et c'est un engouement national qui se fait depuis que la Norvège s'est qualifiée. Et on voit que ça continue. Et toutes les semaines, on a droit à une semaine en plus. Un match de plus, et c'est absolument magnifique. Donc non, d'un côté, je suis pas surpris. C'est un petit pays au niveau du nombre de personnes. On est 5 millions ici. Mais non, quand on travaille bien, il y a moyen de faire des jolies choses.
Ouais, moi, je suis d'accord. Et la fameuse série, c'est pas anodin. Une série comme ça, c'est jamais anodin. Je me souviens qu'avant l'Euro 2021, l'Italie de Mancini avait eu une série entre 30 et 35. Je me souviens plus de matchs sans défaite. Ça décrivait quand même une vraie confiance à l'intérieur d'un groupe où pourtant il n'y avait pas 1000 talents. Là, dans cette équipe de Norvège, Kevin l'a très bien dit tout à l'heure, t'as un super gardien. Un très bon défenseur, un milieu terrain de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale. Ce qu'écrit la Norvège là, c'est non seulement une performance brute, celle qu'on constate là, mais c'est une histoire récente qui alimente énormément de confiance. Je le disais tout à l'heure, c'est marrant de voir un aussi petit pays avec un faible passé footballistique dégager autant de confiance. Dès le début de la Coupe du Monde, on l'a senti cette confiance. Ils étaient dans un groupe à mon sens, peut-être le plus compliqué, avec France et Sénégal. Et quand ils ont joué le deuxième match et que Haaland a dit contre la France, de toute façon, on ne va pas jouer, et puis eux, ils vont gagner et tout. Dans cette phrase-là, je crois qu'il y avait énormément de choses. C'est la seule équipe qui a osé faire ça sur un match, de virer tout le monde, de mettre une équipe B 100% et de dire c'est bon. C'est un peu comme si on avait un plan. Je trouvais que c'était un mélange d'ambition et de prétention. Parce que enlever toute une équipe alors que tu vas jouer l'équipe la plus grosse du groupe et que tu pourrais prétendre à jouer la première place, non, c'est pas notre baston, elle est pas maintenant. C'est pas là maintenant que se joue notre Coupe du Monde, on s'en fout de ce match-là. De faire ça, moi je trouvais, je répète, que c'était suffisant, prétentieux, arrogant, tout ce que tu veux, mais... Écoute, après tout, ça a marché, donc félicitations. J'ai plutôt envie de leur dire que c'est un très bon choix, une très bonne stratégie. Derrière, ils ont joué la Côte d'Ivoire, ils jouent le Brésil. Franchement, sur le papier, deux très bonnes équipes. Il y a des équipes qui ont joué des 16e et des 8e bien plus faciles. Et ils se retrouvent en quart, top 8 pour la Norvège. Et contre l'Angleterre et le Mexique, je le répète, pour moi, c'est du 50-50, peu importe l'équipe que ça sera en face.
Ouais, moi je trouvais ça plutôt très judicieux hein, de la part du sélectionneur norvégien de faire tourner contre la France, parce que tu vois t'as par exemple certaines équipes qui n'ont pas fait tourner mais qui ont galéré, voire qui ont perdu leur dernier match ou qui ont été en galère, et du coup ça tenait pas un bon signal pour la suite si tu prenais 3-0 contre la France avec tes titulaires. Là il était qualifié, il a reposé des cadres, comme on l'a dit, il a pas non plus des cracks à tous les postes, donc il a pas voulu prendre le risque de perdre qui que ce soit pour le match coup près suivant, et donc ça leur a réussi. De toute façon, Haaland l'avait tout de suite dit après le match contre le Sénégal. Nous, de toute façon, on est qualifiés. Le match contre la France, il importe peu. De toute façon, ils vont sûrement nous battre et ils vont sûrement gagner la compétition. Mais je les ai trouvés très forts dans la communication. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, je répète, ils ont un plan. Le plan, il se déroule pour l'instant sans accroc. Mais pour le plan, il faut quand même parler d'Erling Haaland, quoi.
Alors, mais justement, Haaland, Clément,
ce qu'il fait, c'est incroyable.
On va parler d'Haaland, mais j'aimerais Clément, que tu nous dises ce qu'il représente un peu en Norvège, Haaland, toi qui es sur place.
Haaland, c'est le porte-étendard d'un footballeur qui réussit. On a eu, On a évidemment Martin Ødegaard qui joue à Arsenal, mais qui a eu une saison compliquée, qui encore aujourd'hui fait débat. Son match d'aujourd'hui est pas considéré comme étant un beau match.
Mais pourquoi il fait débat? Vous avez pas non plus un choix de ouf au milieu quand t'as le numéro 10 qui joue aussi bien, qui joue à Arsenal. Quand tu fais débat, ça veut dire que qui pourrait jouer à sa place?
Non, mais c'est sûr. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Daniel. Je suis totalement d'accord avec toi, Daniel. D'ailleurs, Daniel, je voulais une petite aparté. Je voudrais te féliciter pour la traduction des Erling Haaland que tu as fait après le match.
Oui, mais c'est parce que c'est des vacances en Norvège quand j'étais jeune.
Parce que Haaland arrive, on va pouvoir le refaire.
D'accord. Non, mais voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui se plaint de la performance de Ødegaard en général. Et c'est vrai qu'il y a ce manque de stabilité qui gêne un petit peu. Et c'est vrai que Haaland est vraiment, voilà, le principe, un mec qui court après les statistiques, qui marque beaucoup de buts, quand on regarde avec ses statistiques en sélection nationale, c'est énorme. Donc non, c'est vraiment l'exemple typique d'un footballeur.
C'est quoi, c'est 62 buts en 54 matchs, non? C'est un truc comme ça?
Tout à fait.
Et, ouais, c'est incroyable.
Et voilà, genre là, on regarde sur la Coupe du Monde, il joue 3 matchs.
Clément, tu parles norvégien?
Oui, bien sûr.
Tu veux nous traduire Haaland pour de vrai?
Avec grand plaisir.
Bon, on est en train de recaler ça. Attention, je pense que c'est parti.
Ça a été un match très compliqué. On est à 0-0 à la mi-temps.
Bah, c'est le journaliste qui parle, hein, qui lui pose la question. Clément?
Oui, je l'écoute. C'est un peu compliqué. Le son est pas génial, mais j'entends en gros ce qui.
Alors dis-nous voir ce qu'il a dit là.
Oui, bah en fait, là, la question c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'a dit Stule Solbakken à la mi-temps, parce qu'on arrive à 0-0.
Ouais.
Et donc après, voilà, c'est bah, la manière dont ce qui a été dit à la mi-temps, j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien entendu, le son est pas génial. Mais en gros, voilà ce qui a été fait, comment repositionner l'entrée de Bob vers la 60e.
Moi, je crois entendre vers la fin qu'il a ajouté. Moi, de toute façon, vous savez, j'ai pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. J'avais un papy sur le dos, Marquinhos, je l'ai broyé en deux. Après, il me manquait le deuxième guignol, Neymar est rentré à la fin. Bon, lui, il suffisait de le faire chialer, c'était réglé. Donc voilà, après, on est allé faire du tambour et c'est bon, on est paré pour les quarts de finale. Maintenant, on est tranquille.
Un peu de choses près.
C'est pas beau, Daniel, ce que tu fais.
C'est pas moi, c'est Haaland qui a dit ça.
Dans la société norvégienne, il y a un truc Haaland. Enfin, je sais pas, moi, les gens qui suivent pas le foot, il y a une affection, j'en sais rien. Raconte-nous.
Oui, il y a une affection parce que moi je vis à Kristiansund. Donc Kristiansund qui est une petite ville sur la côte ouest de la Norvège, qui est à 1 heure de Molde, qui a été le premier club de Erling Braut Haaland. Et donc du coup, c'est un homme déjà qui est très apprécié, qui fait beaucoup de son physique peut faire peur et impressionner, mais c'est vraiment un mec en or qui fait beaucoup pour le football ici, qui a racheté le club de Brune, qui est donc son club formateur. Et puis oui, forcément, le football anglais est très populaire en Norvège. Et même si les gens des fois sont supporters de Liverpool, Arsenal ou United, il y a toujours de l'affection pour Haaland, peu importe c'est dans l'équipe dans laquelle il joue.
Clément, merci beaucoup.
Qu'est-ce que tu as fait en Norvège, toi, un projet sportif?
Moi?
Ouais.
Non, je suis cuisinier de métier et j'ai emménagé ici il y a 11 ans. Et d'accord. Donc là, je fais une reconversion professionnelle.
Très bien.
Je voulais juste finir pour saluer mon papa qui vous écoute souvent.
Alors, on l'embrasse aussi, on t'embrasse également. Amuse-toi bien en Norvège.
Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée.
Salut. Clément, à bientôt.
Au revoir.
Alors oui, sur la Norvège, il faut qu'on dise un mot du gardien aussi. Parce que Nyland,
extraordinaire.
Là, gardien de Séville.
Il a fait un match.
Effectivement, c'est un truc de fou. Il n'y a pas vraiment de... Je regarde le nombre de tirs cadrés du Brésil, les gars, j'ai les stats là.
J'en ai en mémoire au moins. Alors,
oui, 4-5 arrêts décisifs.
3, mais et après, il y a les situations chaudes où le ballon passait devant ses cages.
Il n'y a que 3 tirs cadrés brésiliens.
Mais il y a Vinicius. Non, mais
il y a le sauvetage aussi sur le presque CSC là, du défenseur qui dégage.
Oui, sur le poteau, oui.
Où il l'a ouais, et ouais, derrière, il a un réflexe énorme. Ouais, ça compte pas c'est, comme une frappe au but, mais l'arrêt est extraordinaire.
Il est extraordinaire. C'est une situation dangereuse qui rentre pas dans les stats. Et puis après, il y a surtout, 11e minute, enfin 12e minute, t'arrêtes un pénalty. Ça donne une confiance dingue à l'équipe. Toi, déjà, ça te met en grande confiance. Et derrière, il a déroulé un match top niveau, le gardien.
Les gars, le penalty. D'où sort Bruno Guimaraes pour tirer un penalty?
Alors ça,
dans toute sa carrière, il avait tiré 3 pénaux.
Bah, pourquoi Vinicius s'est pas présenté?
C'est incroyable.
C'est l'une des questions qui, j'espère, sera posée à Carlo Ancelotti, parce que Vinicius, normalement, c'est lui le patron de cette équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas pris le ballon?
Non, mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive, parce qu'il y a vraiment un phénomène sur les pénaltys sur les dernières saisons. Tu sais, il y a eu ce problème-là aussi à un moment en équipe de France avec Griezmann qui ratait des pénaltys. Ça a été le cas aussi au Real. On savait plus qui devait tirer les pénaux. Ça a été le cas aussi au Paris Saint-Germain. Ça a été le cas aussi au Barça à un moment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour tirer un pénalty, il faut une précision hors du commun. Et le souci qu'on a dans le sport de haut niveau, c'est qu'on n'accepte plus l'échec. Mais là, aujourd'hui, on parle trop de l'échec des tireurs. Mais je le dis, je le répète, vous savez que je suis un spécialiste des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, un gardien comme Nyland, 2 mètres, s'il choisit le bon côté, à moins que tu sois Franck Sauzé, ou à l'époque, Franck Leboeuf, on en a parlé avec Gilbert, qui mettait une mine sous la barre, ou comme Cristiano a fort justement tiré bien au milieu, ou alors t'es le meilleur, hein, Daniel, je veux t'entendre le dire, ou alors l'histoire du football, qui s'appelle Neymar Junior, qui arrive à regarder le gardien et tirer, c'est extraordinaire.
Non, c'était Michel, il n'en a raté qu'un.
Ouais, non, mais Michel, il faisait ça avec des gardiens d'un mètre 78, pas avec des gardiens de 2 mètres, qui choisissent le bon côté. Aujourd'hui, un gardien de 2 mètres qui choisit le bon côté, c'est quasiment impossible de marquer. Ça, on pourrait demander à Thierry, c'est Barnera qui s'appelle le coach de
Thibaut Courtois. C'est une réflexion intéressante qui rejoint celle sur la taille des murs pour les coups francs trop près du but. Je suis d'accord.
Exactement.
Néanmoins, il va falloir aussi se poser la question des tireurs qui viennent faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça, déjà des sûr. Choix, c'est-à-dire Guimaraes qui n'en tire quasiment jamais, alors que celui qui en tire le plus ne va pas au ballon. Ensuite, pourquoi ces courses saccadées si c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas? Si c'est un geste que tu ne maîtrises pas, pourquoi tu t'obliges à faire cette espèce de feinte à la con qui visiblement emmerde plus le tireur que le gardien? Donc, ce que tu dis est juste, mais malheureusement, ça vient percuter une autre réalité, c'est qu'il y a soit choix de tireur ridicule, soit façon de faire encore pire.
Mais ça va aussi avec ce football. Quand on dit le football était mieux avant, c'est pas une question de football, c'est pas une question de vitesse, c'est pas une question de technique. Je pense que les joueurs d'aujourd'hui sont techniques, etc. Mais ils ont les réseaux sociaux, ils regardent des trucs à droite, à gauche. Ils veulent faire comme Neymar. Mais Bruno Guimaraes, tu vas me prendre 2 pas d'élan. Si depuis la nuit des temps, les gens ils prennent 5 mètres d'élan, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est comme ça que tu arrives avec de la vitesse à transposer la vitesse vers le ballon.
C'est la puissance qui te permettra de contrer ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir que la taille des gardiens, la masse qu'ils sont dans les buts est plus grande. Donc, s'il part du bon côté, le seul moyen de passer, c'est vraiment que le ballon aille plus vite que l'homme au sol.
Et les gardiens sont frappés fort.
Et les mecs, ils prennent 2 pas d'élan, ils sont ridicules. Alors que leur petit pas de cabri à la con, là.
Non, mais je le dis. Aujourd'hui, quand tu. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la phrase de Didier Deschamps.
Minute 35, j'ouvre pas la cagnotte au gros mot.
Non, parce qu'après minuit, c'est pour ça, t'as remarqué, je me lâche un peu depuis minuit, là. Voilà.
Bien sûr, je n'ouvre pas la case de Didier Deschamps et son histoire de loterie. Mais il y a bien sûr une part de chance énorme, puisque aujourd'hui, si le gardien choisit le mauvais côté, forcément, t'as des grandes chances de marquer. Par contre, il y a 3 tiers dans le but, je le dis, je le répète, le tiers bas, le tiers du milieu et le tiers du haut. Si tu veux marquer, faut tirer tiers du haut et t'es sûr de marquer. Par contre, il y a Yacine Bono qui nous a sorti un nouveau truc et qui lui... Ouais. Et lui, Bono, il a fait une dinguerie. C'est-à-dire qu'il a pas plongé, il est resté debout.
Parce qu'un gardien, si un gardien
plonge depuis le milieu du but, il a aucune chance d'aller sous la barre, ça c'est sûr. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut être très très fort pour tirer des pénaltys. Et il faut être très très fort. Et il n'y a pas que les pénaltys, hein. Je revois l'action d'Hendrick. Hein. Hendrick, je suis désolé, hein. Sa touche de balle, elle est catastrophique, ça conduit rien d'un Brésilien. Hendrick, c'est un joueur musculeux, très puissant, qui a une belle frappe de balle, mais c'est pas parce que la passe de Vinicius. Par contre, là, c'est pas de Vinicius. Mario, parlons de la passe de Vinicius.
La passe de Vinicius a progressé. C'est peut-être son meilleur geste technique du match, parce que pour le reste, on l'a pas vu, les gars.
Pas Vinicius, et soi-disant, c'est le patron de l'équipe. Vinicius, il fait rien.
Il fait rien du tout, exactement.
Oui, mais parce que c'est un patron, qui peut-être qu'à l'époque de Ronaldo et Romario, etc., ou de Ronaldo et de Rivaldo,
voilà, ça aurait été un remplaçant, ça aurait été un Martinelli. C'est pas un joueur intelligent, Vinicius, c'est ça son problème.
Tiens, allez sur Netflix, il y a un documentaire qui retrace la victoire du Brésil en 94, avec les joueurs qui témoignent à peu près tous. Et en fait, Romario, à plusieurs reprises dans le documentaire, qui est exceptionnel, je te le conseille, Kevin.
Ils expliquent comme ils ont eu la chatte en finale, que jamais ils doivent gagner.
En fait, non, mais il dit moi, le buteur, c'est moi. Donc quand un mec arrive dans la surface de réparation, et je leur ai dit, mais en fait, ne tirez pas. Vous devez me donner le ballon. Vous devez me le donner. Parce que c'est moi qui lui ai marqué, de toute façon.
Romain.
Et donc, il refaisait les actions. Il est là, par exemple, lui, il m'a donné le ballon. Il aurait pu tirer. Il me l'a donné. Il a eu raison. C'est ce qu'il fallait faire.
Voilà. Oui, mais c'est le talent pur, le talent
pur. Parce que le mec, il avait une espèce d'assurance comme ça.
Mais c'est la même chose pour Haaland. Hein, si tu regardes les Norvégiens, dès qu'ils sont dans la surface, ils cherchent Haaland.
Sauf que Haaland, avec son côté quasiment immobile, massif, où il a pesé sur les deux défenseurs,
sans élan,
broyé.
Sans élan et à 20 mètres du but, il t'invente un but.
Mais avec aussi peu dans le match, c'est-à-dire une occasion et demie, parce que la frappe, il faut la mettre de là où il est, il va te mettre deux buts en bougeant peu, en ne faisant principalement que peser et broyer un peu les défenseurs et en attendant le moment. Mais quand l'action de son premier but, quand le centre est venu, Kevin, tu l'as senti. T'as senti à ce moment-là, s'il passe, mais il va, enfin voilà, on sentait que physiquement, il allait s'imposer et que c'était terminé. Il allait manger le défenseur à ce moment-là.
Grosse dédicace à coach Courbis. Grosse dédicace à coach Courbis. On pense à lui parce que aujourd'hui, les latéraux, j'ai vu une discussion entre Roy Keane et Neville pour un média anglais où il parlait justement du fait que Roy Keane se plaignait que les latéraux n'empêchent plus le centre. Mais quand t'as Erling Haaland dans l'axe, en fait, t'as qu'une seule chose à faire, c'est empêche-le de centrer, le gars. Et qu'est-ce que c'est mal défendu. Et c'est pareil pour Nuno Mendes avec le Portugal
mais
contre la Croatie.
Si c'est mal défendu, qui ne Haaland, défend il pas est du trop tout. Puissant, c'était fini.
Simple, je reprends la phrase de coach Courbis. Il y a un attaquant, il y a un défenseur. Le gars, il centre, c'est 1-0 pour l'attaquant. C'est tout. Si t'es défenseur, tu comptes le centre, c'est 1-0 pour toi. Donc en fait, t'as qu'une seule chose à faire, c'est d'empêcher le centre, d'empêcher la frappe. Et pareil, d'empêcher la frappe. Il y a un nombre de buts incroyable entre les jambes depuis le début de cette Coupe du Monde, entre les jambes des défenseurs. Et les mecs aujourd'hui sont trop précis. Si tu les laisses frapper, tes défenseurs, il a frappé, t'es passé, c'est 0-1. Mais les gens aujourd'hui ne savent plus défendre parce qu'ils sont là pour contre-attaquer, ils sont là pour avoir la possession, pour sortir les ballons. Mais il y a plus d'un mec qui est là et qui laisse pas frapper ou pas centrer son gars.
Messieurs, dames, minute 39. L'homme que vous écoutez s'appelle Kevin Diaz. C'est une création de l'Afterfoot. Vous avez vu comme il est bon? Ben voilà, il s'appelle Kevin.